17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, grand témoin aujourd'hui, quelqu'un dont j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à recevoir, Lamia Elhara, j'espère que je prononce bien votre nom.
C'est très bien, c'est bien, hein? Ça. Bonjour Nasser.
Alors bonjour, et vraiment je suis ravi de vous accueillir sur Beurre FM. Vous êtes né le 22 novembre 86 à Rabat, donc toute jeune, et vous avez déjà un magnifique parcours politique. Vous êtes pharmacienne de profession et vous avez beaucoup travaillé sur le droit à la santé. D'ailleurs, vous avez fait partie de la Haute Autorité de la Santé et vous êtes rentrée aussi, vous êtes engagée au Parti Socialiste depuis 2010 et vous avez eu un cursus extraordinaire puisque vous avez été membre de l'Union des étudiants de France au sein du mouvement des jeunes socialistes. Vous avez vous êtes engagé, vous avez été conseillère de Paris, donc une histoire vous êtes encore oui, et donc vraiment un engagement, une trajectoire. Votre famille, le Parti Socialiste, donc dans laquelle vous avez donné de votre temps, de votre vie, de vos compétences, et aujourd'hui le Parti Socialiste vous dit vous n'existez plus, on n'a plus envie de vous, bref, ils ne vous ont pas investi dans cette espèce d'accord qui, on verra si l'avenir nous le dira, s'il est virtuel ou réel. Pour l'investiture, pour législative, on a préféré quelqu'un d'autre. On va y revenir dans un instant. Donc, le PS, a fait ou a baissé la tête, ou a fait marche arrière. Donc, vous n'êtes pas investi au nom de l'accord avec la France Insoumise dans le 20e arrondissement, au profit de quelqu'un de la France Insoumise qui est Daniel Simonet. Déjà, je pense que vous, ça a dû vous faire un choc. Du point de vue de votre histoire personnelle, de votre histoire politique, de votre attachement à ce parti qui pour vous représente peut-être quasiment tout, ça a dû être un tremblement de terre.
Vous avez raison, ça a été un tremblement de terre, mais si vous me permettez juste une précision, c'est que au-delà du parcours que vous avez décrit, et je vous en remercie, en plus de ça, j'ai été élue députée du 20e arrondissement de Paris, il y a moins d'un an.
Haut la main. Avec 56,56% des voix.
Exactement. C'est-à-dire qu'en juin 2021, je gagne ce siège de député du 20e arrondissement de Paris, de la 15e circonscription.
Qui était détenu par Georges Pollangevin précédemment.
Exactement, puisque Georges Pollangevin est devenu adjointe à la Défenseure des droits, ce qui a entraîné sa démission. Donc à partir de là, j'ai fait le choix de me présenter après avoir réfléchi, puisque c'est vrai que c'est un engagement qui n'est pas anodin. Et moi, à 35 ans, je suis aussi maman de deux très jeunes enfants. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et un bébé qui va avoir 2 ans la semaine prochaine. Donc autant vous dire qu'on réfléchit avant d'accepter des responsabilités comme celle-là. J'ai fait campagne pendant longtemps, puisqu'il y avait le Covid, l'élection a été décalée, j'ai gagné face à Daniel Simonet, et j'ai gagné avec 14 points d'avance. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant un an, sur le terrain, auprès des habitants du 20e arrondissement de Paris, et aujourd'hui, on me dit que face à moi, on investit celle que j'ai battue il y a un an, plutôt que moi, Lamia Elhara, qui ai gagné il y a un an. C'est incompréhensible, je le vis comme une injustice. Ça a été un moment très dur, très douloureux sur le plan personnel, parce que j'ai donné beaucoup de mon temps, beaucoup de mon énergie. J'estime avoir un parcours républicain exemplaire, qui est celui de millions de Français aujourd'hui, qui eux aussi s'engagent, travaillent, s'investissent au quotidien, et à qui, au final, on explique que face à une Lamia qui a gagné en 2021, on a préféré une Danielle qui a perdu en 2012, qui a perdu en 2017, puisqu'elle s'était déjà présentée sur une autre circonscription, qui a perdu en 2021 sur ma circonscription face à moi, et c'est elle qui a investi aujourd'hui. C'est injuste.
Oui, mais alors, du côté de la France insoumise, bon, c'est pas une surprise, Mélenchon est le roi du monde, et probablement Daniel Simonet est la reine du pétrole, mais comment expliquer quand même ce sacrifice qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a consenti à vous faire en acceptant cet accord qui en fait c'est plutôt un désaccord. Est-ce que vous avez rencontré Olivier Faure?
Je l'ai rencontré, je l'ai surtout beaucoup eu au téléphone. Mais il est extrêmement mal à l'aise parce que il partage le fait que c'est effectivement quelque chose d'injuste contre lequel il a envie de se battre. D'ailleurs, il faut quand même le préciser. Jeudi dernier, le Conseil national du Parti socialiste, pour ceux qui connaissent pas, c'est le Parlement en fait du PS, a voté à l'unanimité un texte qui demande à me soutenir et à réparer l'injustice qui est celle de ma circonscription. La France insoumise de son côté, Jean-Luc Mélenchon en tête, puisque c'est lui qui est décisionnaire au final, et je sais qu'il a été sollicité pour demander à changer cette position-là, n'a pas donné suite en fait à cette demande. Donc Olivier aujourd'hui, il est très embêté, parce que au-delà de la question de ma situation, à la limite on peut considérer que tout le monde s'en fiche un peu, c'est que symboliquement, le message qui est envoyé aujourd'hui n'est pas un message positif, n'est pas un message encourageant pour les gens qui ont envie de s'investir, pour les jeunes générations, pour les gens qui sont issus de la diversité, pour les jeunes parents qui donnent de leur temps pour la politique et qui, au final, s'en retrouvent écartés. Moi, j'avoue, j'ai du mal à le comprendre et je ne l'accepte pas. C'est pour ça que je me présente en dépit de cela.
Non seulement vous l'acceptez pas, mais beaucoup de gens ne l'acceptent pas. Par exemple, Lionel Jospin, qui est une autorité morale dans la gauche française, puisque c'était quand même lui qui avait fait la gauche plurielle. Donc, Lionel Jospin vous soutient. D'ailleurs, il a déclaré publiquement en disant que il était d'accord avec l'accord qu'Olivier Faure avait signé avec Mélenchon, mais que vous, il vous soutenait. Et donc, j'imagine que beaucoup de personnalités aussi vous soutiennent. Donc, c'est une véritable schizophrénie qui s'est emparée du Parti socialiste.
Complètement. C'est une schizophrénie parce que vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Lionel Jospin, c'est une autorité politique et morale pour un grand nombre aujourd'hui de Français, pour un grand nombre de citoyens de gauche, pour qui il incarne les plus grandes avancées sociales de ce pays. Les 35 heures, la CMU, tout un ensemble d'avancées qui ont été permises sous le quinquennat qui a été le sien. Au-delà de ça, Lionel Jospin, c'est celui qui a construit la gauche plurielle. Et ce, il a commencé à construire l'union de la gauche dès les années 60.
Une vraie gauche plurielle qui n'a rien à voir avec cette espèce de raccommodage qui s'appelle le NUPES.
Mais ça n'a rien à voir. La gauche plurielle telle qu'elle a été portée par Lionel Jospin, vous avez tout à fait raison, c'était la construction d'un programme commun, c'était la construction d'une ambition commune, c'était la construction aussi d'une ambition et d'une union qui se faisait dans le respect des individus et des entités. Là, aujourd'hui, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Lionel Jospin s'était exprimé en faveur de l'union de la gauche dans le cadre des élections législatives et au vu du contexte aujourd'hui qu'on connaît, parce que faut pas oublier non plus que le score que fait ma candidate, celle que j'ai soutenue, Anne Hidalgo, n'est pas tout à fait celui qu'on aurait attendu ou qu'on estime mérité pour notre programme. Bon, toujours est-il que la réalité est celle-là. Et Lionel Jospin considère que aujourd'hui, cet accord comporte une injustice majeure qui rompt du coup l'équilibre et l'ambition qu'il a porté et qui ne respecte pas les individus et les entités, à savoir le fait de m'exclure de cet accord alors que je suis la députée sortante de la 15e circonscription de Paris qui comprend, je le rappelle, presque 80% du 20e arrondissement. Mais et c'est pour ça qu'il m'a dit qu'il allait me soutenir jusqu'au bout de ma candidature.
Mais au-delà de votre candidature personnelle, qui bien sûr est très importante, c'est peut-être que c'est la cerise sur le gâteau ou c'est peut-être l'événement qui trahit cet accord qui en fait est une régression, une récession du Parti socialiste, comme beaucoup de ténors du Parti socialiste l'ont clamé. Je veux dire par là que le Parti socialiste a de nombreux élus dans toute la France. Il est très implanté localement. Il y a beaucoup de députés sortants qui auraient bien aimé se représenter. En politique, on est habitué à se battre. Il faut se battre pour s'imposer. Et là, tout à coup, on leur dit, circulez, il n'y a rien à voir, vous arrêtez, on n'aura que 70 circonscriptions.
Alors, peut-être c'est pas tout à fait ça, Nassar.
C'est un petit peu les choses.
C'est pas tout à fait ça. Puisque, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait que cet accord, il vient appuyer sur un certain nombre de points, de différences qu'on a avec la France insoumise. On y reviendra tout à l'heure. Sur la question des 70 circonscriptions, dans l'accord tel qu'il a été discuté, à aucun moment la France insoumise n'a accepté de prendre en compte l'ancrage territorial de notre parti, alors que nous détenons la plus grande majorité de collectivités.
C'est le fond de ma question. Est-ce que le PS ne s'est pas sabordé pour l'avenir avec cet accord ?
juste, par contre, sur les députés, moi j'insiste là-dessus, je suis la seule députée sortante du Parti communiste, du Parti socialiste, qui n'a pas été investie. Je suis la seule. Tous les autres députés sortants qui souhaitaient être dans l'accord le sont. Je suis la seule à ne pas l'être.
C'est encore plus rageant. C'est encore plus rageant.
Mais c'est pire que rageant, c'est très énervant. Là où je vous rejoins, c'est qu'en politique, il faut se battre. Et moi, je me bats pour mes idées et contre l'injustice. Et ça, c'est mon engagement depuis toujours. Et donc, du coup, j'ai décidé de me battre et de maintenir ma candidature.
Ma question initiale, est-ce que le Parti socialiste n'a pas hypothéqué son avenir, quoi? Est-ce qu'il n'a pas baissé les bras face à une situation? Il aurait pu continuer à se battre.
Il aurait pu continuer à se battre. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Considérant effectivement que, au vu du contexte, il fallait être en capacité de, entre guillemets, sauver un groupe pour pouvoir continuer d'exister dans les 5 ans. C'est un choix qui peut être remis en question. Moi, je partage vos interrogations. Je ne sais pas ce que l'avenir nous dira. Une seule chose pour moi est certaine, c'est que ce n'est pas dans la compromission qu'on peut construire une opposition et ce n'est pas dans la compromission qu'on peut construire l'avenir. Donc pour ma part, je reste cohérente, et on est nombreux à le faire, avec nos valeurs, avec nos convictions, que je vais continuer de porter. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se retrouver sur un certain nombre de combats. Et c'est ça qu'était censé porter cet accord. De dire que face à la casse sociale, face à l'urgence climatique, face à la casse démocratique, on pouvait se retrouver sur certains points.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h. 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, notre grand témoin, Lamia El-Arrache, députée sortante du 20e arrondissement, qui ne demande qu'une chose, c'est de rempiler et donc d'être candidate je crois que c'est la 15e circonscription.
C'est ça,
de Paris. Et, Lamia El-Arrache, les élections présidentielles ne sont pas les élections législatives. Donc, on sait tous que, d'abord, l'abstention, c'est élection présidentielle 30%. On sait que les élections législatives, c'est toujours autour de 50%. Et quand bien même, est-ce que Mélenchon dit « je serai Premier ministre », mais on sait très bien que, déjà, il y a l'effet majorité présidentielle, et on sait qu'une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. Donc, en fait, ils se sont basés sur les résultats de l'élection présidentielle pour vous mettre « out ». Comment ils ont fait leur calcul pour dire celle-là ne sera pas candidate?
Mais en fait, ils l'ont pas fait comme ça, hein, parce que pour le coup, il y a 70 circonscriptions qui sont consacrées au PS. Sur ces 70 circonscriptions, l'accord de base, c'était reconduction de tous les sortants. Un exemple, il y avait 11 députés communistes sortants. Les 11 députés communistes sortants sont dans l'accord. Il y avait 24 députés socialistes sortants. Tous ceux qui se représentent sont dans l'accord, sauf une, moi. Donc, en fait, c'est même pas une question de score à la présidentielle. C'est juste une volonté de m'empêcher, moi, Lamia El-Arrache, 35 ans, députée sortante de la 15e circonscription de Paris, de pouvoir reprétendre à ce poste-là. Donc, c'est pour ça que non seulement je suis candidate, mais en plus de ça, j'espère que les gens vont voter pour moi et me permettre à la fois de réparer cette injustice, mais surtout de pouvoir continuer le mandat qu'ils m'ont confié il y a moins d'un an. Et c'est ce que j'ai dit à Olivier, d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, je suis pas un éléphant du PS. Il peut pas considérer que j'ai fait 4-5 mandats derrière moi. Je veux dire, j'ai été la plus jeune députée socialiste de l'Assemblée nationale sur cette mandature. Et je suis une des plus jeunes députées de l'Assemblée nationale. Et c'est moi qu'on vient sanctionner, c'est à moi qu'on vient demander de me retirer pour mettre à ma place, investir à ma place, une personne qui a perdu toutes les élections auxquelles elle s'est présentée, qu'elles soient locales ou nationales, et qui surtout ne propose rien en termes de propositions concrètes, n'a rien construit dans l'arrondissement où elle est aujourd'hui élue. C'est inacceptable.
C'est l'incarnation du déclin du PS, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Alors aujourd'hui, vous êtes candidate. Donc, comment ça se passe? Quels sont vos soutiens? Comment vous allez vous y prendre? Quels sont vos relais? Quelle est votre stratégie? J'imagine que vous allez prendre tout ça à bras le corps et que vous êtes parti pour la mer des batailles, quoi.
Exactement, mais je suis partie pour la mer des batailles déjà il y a un an. Pour le coup, mon équipe peut en témoigner. le jour où j'ai été élu, ou on a été élu, parce que c'est un travail d'équipe, une élection, je leur ai dit, bon, dès maintenant, les amis, on est déjà en campagne. Parce que je savais qu'il n'y avait qu'un an de mandat, et que pendant cette année, il allait falloir convaincre le plus grand nombre, et surtout renouer ce lien avec les citoyens qui s'est complètement délité. Autour de nous, combien on a de gens qui disent « Mais les élus, ça sert à rien. De toute façon, je m'en fous. J'ai pas envie d'aller voter. C'est tous les mêmes. Ils font que mentir. Et ils font des promesses qui ne tiennent pas. » Et moi, ce que j'avais absolument envie de faire, c'était de rompre, en fait, cette image-là qu'ont les gens des élus. Donc, j'ai fait des permanences délocalisées. J'ai fait des réunions d'appartements où, quand les gens acceptent de m'ouvrir leurs portes, je vais chez eux, je prends un café, je discute, on papote, on amène les voisins. Enfin bref, on essaie de recréer du lien. Je ne dis que des choses que je suis en capacité de faire. Et quand je ne sais pas, je crois qu'il est important de retrouver l'humilité, de dire, là, je ne sais pas, je vérifie et je reviens vers vous. De fait, je ne prends jamais d'engagement que je ne tiens pas. Et au-delà de ça, on a décidé, depuis maintenant quelques semaines, depuis début janvier, de rentrer dans le dur de la campagne en se disant, on a 6 mois pour convaincre. Donc là, très concrètement, la donne a un petit peu changé avec le fait que le PS ait décidé d'investir Daniel Simonet, LFI, 51 ans, qui a perdu l'année dernière face à moi, plutôt que Lamia El-Arrage, 35 ans, socialiste par ailleurs, dans son cœur et qui le restera, qui a gagné en 2021. Donc on a un peu changé la donne. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que non seulement on distribue effectivement un certain nombre de tracts, c'est ce qu'on a toujours fait, sur les métros, à l'entrée des écoles pour aller parler aux parents d'élèves. On fait aussi des réunions d'appartements. On fait aussi des rencontres thématiques autour d'un certain nombre de sujets. On fait aussi tout un travail auprès des associations, des commerçants, des institutions. Ce qu'on a fait déjà il y a un an, c'est-à-dire que dès que j'ai été élue, j'ai aussi eu à cœur de rencontrer le plus grand nombre de représentants pour me présenter. Et leur dire, voilà, je suis votre députée, maintenant on va travailler ensemble. Alors, et j'espère que ce travail-là, de long terme, va payer.
Alors, j'imagine que donc, vous avez un programme. Alors, quel est ce programme? Est-ce que c'est le programme de l'accord du PS ou c'est un autre programme? Je veux parler du pouvoir d'achat, je veux parler de la retraite, je veux parler des problèmes de sécurité, des problèmes de scolarité. Et qui sait que dans le 20e, il y a d'énormes problèmes de scolarité. Votre programme, ça va être quoi?
Alors, moi, je reste cohérente avec le programme qu'on a porté et qui est celui qu'on a construit de longue date. Déjà, ce que je disais tout à l'heure, il y a 3 urgences.
Le programme quoi, des présidentielles?
Le programme qu'on a construit depuis 5 ans, pour le coup, parce qu'il y a quand même tout un travail qui a été fait par les socialistes pendant 5 ans.
Dont le point d'orgue a été porté par Anne Hidalgo à la campagne présidentielle.
Par Anne Hidalgo, tout à fait. Sans doute qu'il n'était pas suffisamment étayer le travail de ces 5 dernières années, qu'on n'a pas réussi à le rendre audible, mais en tout cas j'estime qu'il est légitime. Déjà, il y a l'urgence sociale. Cette urgence sociale, c'est 1. Augmenter le SMIC de façon conséquente et l'augmenter pour l'amener à presque 1 500 € net pour répondre non seulement à l'inflation, mais répondre aussi à la nécessité qu'ont les gens de pouvoir vivre dignement. Deuxièmement, il y a la question des retraites. Il est très important aujourd'hui de permettre aux gens qui ont eu des carrières longues, qui ont eu des carrières difficiles, qui ont eu des métiers éprouvants, de pouvoir partir à la retraite à 60 ans. En étant aussi clair et en prenant un peu plus compte des déroulés de carrière, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, ma génération, on n'a pas la même perspective de carrière à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans qu'à 50 ans.
Oui, parce que les gens ne sont plus très longtemps dans un même emploi.
Exactement.
Ils occupent à la fois
exactement.
De l'intérim et puis plusieurs emplois en même temps ou des fois séparément avec des périodes de chômage.
Exactement.
Donc les calculs sont très aléatoires.
Exactement. Voilà. Mais surtout, donner le droit aux gens de changer d'avis. En fait, peut-être que ce que tu fais à 30 ans, tu n'as pas envie de le faire à 35 ans ou tu découvres un nouveau métier, tu as envie de te former, te spécialiser et d'évoluer. Et l'autre point pour moi sur les questions sociales, c'est la hausse des minima sociaux, notamment le minimum vieillesse. Et moi, je vois, j'ai un marché très populaire sur ma circonscription qui est le marché d'Avoue, qui est sur la porte de Montreuil. Et je rencontre beaucoup de femmes âgées, pour la plupart, qui vivent seules. Leurs conjoints sont décédés. Les enfants sont partis de la maison. Et elles ont des toutes petites retraites. Elles ont moins de 800 € par mois. Il est extrêmement important d'augmenter le minimum vieillesse pour l'amener à 1 100 €, ce qui me semble être aligné sur le seuil.
C'est ce qu'Emmanuel Macron a promis là pour
ça. Écoutez, il avait aussi promis sur la présente mandature d'augmenter les minima sociaux. Il avait promis de pas toucher aux retraites. Il avait promis tout un ensemble de choses qu'il a pas faites. Donc, en tout cas, moi, je m'engage à défendre ces sujets-là. sur les questions de sécurité, je crois qu'il est très important d'être en capacité de les prendre en compte, mais pas en disant qu'on est contre la police. Ça peut pas fonctionner comme ça. C'est pas vrai. Il faut redonner du sens à l'engagement policier avec renforcement des moyens, des effectifs, mais aussi redonner du sens à leur vocation et à leur façon d'exercer leur profession. La police de proximité, on parlait tout à l'heure de Lionel Jospin, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement important. Sauf qu'aujourd'hui, notamment dans les quartiers populaires, quand nos jeunes voient des policiers, la première des choses, c'est qu'ils ont peur. Et ça, c'est pas normal, faut qu'on soit en capacité...
Vous parlez des femmes à l'instant, mais il y a deux groupes de population dans le 20e qui sont très importantes, qui sont aussi en situation de précarité, notamment depuis le Covid, et qui s'accélère avec l'inflation due à la guerre en Ukraine, sont les personnes âgées et les jeunes étudiants.
Exactement.
Là-dessus, est-ce que vous avez des choses ?
Sur les personnes âgées, moi je m'engage dans les premiers jours qui font suite à mon élection à porter une proposition de loi sur la prise en compte du vieillissement de la population, l'augmentation du minimum vieillesse, la prise en compte des appartements, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent en logement social ou qui vivent en logement indépendant et qui voudraient pouvoir rester chez elles, mais à condition que le logement soit adapté. Il faut aussi aménager les services publics pour qu'ils soient plus accessibles en fait aux personnes âgées. Aujourd'hui, tout est au numérique, mais la plupart des personnes âgées, elles n'ont pas accès à Internet ou elles n'ont pas accès à un ordinateur ou elles ne savent pas l'utiliser. Et là aussi, il faut qu'on redonne du sens aux services publics avec des vrais gens qui soient en capacité de s'adresser à ces personnes-là et de les accompagner. Et enfin, le dernier point, la question de l'accès, par exemple, au transport, puisque aujourd'hui, le métro n'est pas quelque chose de très accessible, les transports en commun ne sont pas accessibles aux personnes âgées, donc avec une vraie formation et une vraie ambition pour permettre aux personnes de pouvoir se déplacer plus facilement.
À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Lamia El Haraj, notre grand témoin d'aujourd'hui. Lamia, on n'a pas parlé de l'élection présidentielle, mais on a vu quand même quelque chose d'incroyable, une extrême droite quand même à 42% dans ce pays. Or, moi j'ai connu, ma génération a connu des extrêmes droites à 2%, à 3%. C'est ce que devrait faire l'extrême droite dans une république comme la France. Comment vous analysez ça ? À quoi est dû ce fait que cette préférence nationale a pollué tous les partis, que le grand remplacement est devenu qu'un mot poli dans la bouche quasiment de tous les médias et de tous les hommes politiques ? Qu'est-ce qui se passe pour que la République française donne 42-45% des voix ? Si on rajoute Zemmour, on est à presque 50%. Que cette extrême droite fasse autant dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je crois qu'il y a plusieurs réponses, mais moi je veux commencer par vous raconter une anecdote. Je vous ai dit, j'ai un petit garçon qui a 6 ans, qui me ressemble, hein, il n'est pas vraiment blond aux yeux bleus, quoi. Hein. Et il me dit, il rentre un soir de l'école, il me dit, maman, est-ce que c'est vrai que si Éric Zemmour il gagne l'élection présidentielle, je vais devoir rentrer dans mon pays, nous les marrons ? Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, mais alors déjà, bon, je comprends pas ton pays. Il est né en France, hein, mon fils, son père est français, ouais. Comme on dit maintenant, dans un pays où l'extrême droite fait 50%. Et ça m'a choqué, parce qu'il a pourtant des parents très conscientisés. Il grandit dans un environnement très divers, très mixte, avec des enfants d'origine très différente. Et nos propres gosses ont intériorisé ce truc de dire qu'en fonction de ta couleur de peau, en fonction de la famille dans laquelle t'es né, en fonction du quartier où tu vis, en fonction de l'école que tu fréquentes, en fonction de la couleur de peau de tes copains, en fait, on peut t'expliquer que t'es pas chez toi, alors que t'es chez toi, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a construit des générations et donc des millions de citoyens français à qui on a expliqué en permanence que l'autre était différent, que l'autre n'était pas le bienvenu, que l'autre était à rejeter, déjà il y a une forme d'exacerbation du rejet de l'autre et de la haine qui vient sous-tendre le reste. Quand vous avez en plus de ça une crise sociale sans précédent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit non seulement moins bien que la génération de nos parents, mais on sait aussi que nos enfants potentiellement vivront encore moins bien. Et plus ça va, plus les prix augmentent et nos salaires restent complètement figés, complètement stables. Quand vous avez cette misère sociale qui s'installe, quand vous avez une casse du service public sans précédent, regardez autour de vous. Quand vous avez certains quartiers où il n'y a plus de bureaux de poste, il n'y a plus de bars ou de cafés, vous n'avez pas accès à un professionnel de santé, il y a des déserts médicaux partout, vous avez le sentiment de quoi ? D'être relégué. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, sur lequel, enfin, je dirais le désert sur lequel vient s'asseoir l'extrême droite. C'est de dire, au lieu de lutter contre les assignations territoriales, sociales, de couleur de peau, de genre, de je ne sais quoi, on vient attiser les haines et considérer que c'est sur la base de cette haine qui nourrit la peur
qu'on
construit le projet d'extrême droite.
Zemmour a ethnicisé le débat. Alors que la République française, c'est
qui lui a donné la possibilité d'ethniciser le débat.
Mais il a eu le soutien de différents médias. Il a eu Bolloré, pour ne pas le citer, avec la chaîne CNews. Il s'en est donné aussi à cœur joie sur RTL. Beaucoup de médias se sont engagés là-dedans. Ils lui ont donné une place considérable. Ils se sont fourvoyés. Ils ont repris cette thèse. Et donc, Zemmour a ethnicisé le débat dans un pays, dans une république où c'est d'abord, avant tout, la question sociale qui prime. C'est quand même la République française. C'est la mère patrie, la Déclaration des droits de l'homme, et c'est tout un tas de conquêtes qu'on a abordées tout à l'heure. Cette idée d'ethnisation du débat, de préférence nationale, c'est quand même le résultat d'une démission des partis politiques dits républicains et de gouvernement. Ces mêmes partis qui, aujourd'hui, sont en désuétude et font des accords, des pseudo-accords pour ne pas mourir. Oui. Donc, c'était ma deuxième question. Emmanuel Macron a été élu sur ni droite ni gauche et puis du en même temps. Aujourd'hui, on voit les partis LR et PS qui ont fondu au moment des élections présidentielles, mais qui étaient encore un peu enracinés dans les territoires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils admettent leur disparition en faisant cet accord ou Il se passe quoi ? Les relais intermédiaires, les syndicats, les ONG, etc., on n'en parle pas beaucoup. Il y a une crise de la démocratie dans ce pays.
Bien sûr qu'il y a une crise de la démocratie et elle est énorme. D'abord, je crois que Emmanuel Macron, en prétendant être ni de droite ni de gauche, a juste oublié la fin de sa phrase, c'est de dire cap sur la droite libérale à tout point de vue. Et on l'a vu pendant ce quinquennat. À côté de ça, vous avez raison. Les partis républicains, moi je vais parler de celui que je connais le mieux, le PS, s'est effondré dans l'opinion publique nationale parce que sur le plan local, les élections intermédiaires ont été remportées par ces partis dits républicains. Donc les partis républicains aujourd'hui, que ce soit la droite ou la gauche, sont vécus comme de bons gestionnaires locaux, mais comme étant dans l'incapacité de se projeter à une échelle nationale. Donc là-dessus, je crois qu'il va y avoir un moment qui viendra après ces élections législatives, j'espère dès la rentrée, de dire reconstruisons le camp du progrès social que je pense la gauche incarne. Ça doit donner lieu, à mon sens, à de grandes assises de la gauche où on réouvre aussi les portes pour discuter avec les syndicats, avec les associations, avec les citoyens.
C'est-à-dire que le parti s'est coupé de ses forces vives.
Oui, je pense.
C'est devenu un parti de gouvernement, un parti qui est obsédé par le maintien et l'entretien des postes acquis ou préacquis, et il s'est coupé avec, disons, les masses populaires, les syndicats, les ONG, les associations.
Je ne sais pas s'il s'est coupé, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une coupure. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, il y a une coupure. À force de dire qu'on est un parti de gouvernement, on a juste oublié que pour être un parti de gouvernement, il fallait gagner des élections, en fait, accessoirement. Donc c'est très bien de continuer à revendiquer d'être un parti de gouvernement. Mais il faut d'abord redevenir un parti de masse. Un parti où les gens, ils ont envie de s'engager. Un parti qui peut changer la vie des gens et les faire rêver.
Et sur le plan idéologique, on a l'impression que sur le plan idéologique, il ne produit plus rien.
Et pour ça, justement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut retrouver dans nos propositions un ancrage avec le quotidien des gens. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui ce qu'est la réalité sociale du pays, quelle est la réalité démocratique ? On ne peut pas se dire « Ah, c'est super, on a fait les 35 heures ». Bien sûr que c'est super, on a fait les 35 heures. Je suis extrêmement contente. Et en plus, vu le soutien que m'apporte Lionel Jospin, autant vous dire, j'en suis très honorée. Mais le monde du travail, il s'est arrêté pour nous aux 35 heures. Et depuis, on a fait, la loi El Khomri, la réforme de l'assurance chômage qui a été faite par Emmanuel Macron, qui sont des réformes absolument scandaleuses, qu'il faut abroger. Donc pour ça, il faut qu'on repense une certaine radicalité dans nos propositions. Et pour ça, il faut accepter accepté de travailler, non pas nous-mêmes en vase clos, mais en s'ouvrant davantage, beaucoup plus que ce qu'on a pu le faire, et être en capacité de renouer avec le quotidien des gens. Par exemple, sur la question des familles, qu'est-ce qu'on pense ? Sur la question de l'organisation de la politique de la ville, qu'est-ce qu'on pense ? Sur les questions liées, non pas à l'assimilation ou au grand remplacement, tout ça, c'est des conneries, personne n'y croit. Je veux dire, c'est juste une marotte de haine qu'on agite pour venir faire oublier aux gens que leur réalité, c'est les problématiques sociales. En revanche, peut-être que nous, on a des choses à porter sur le vivre ensemble. La question de la laïcité, elle est censée être au cœur de nos débats. Et on a un président de la République aussi, il faut le dire, qui n'a pas toujours été très clair là-dessus.
Alors justement, on revient à votre circonscription et au premier tour qui a lieu dans 3 semaines, le second tour dans 5 semaines. Vous seriez prêt à faire un accord avec qui ? Avec la majorité présidentielle ? Avec LR ? Ça se passe comment ?
Ça se passe pas comme ça. Déjà, pour commencer, le 12
c'est
juin prochain...
C'est volontairement provocateur, ma question.
Non, mais je vois pas pourquoi vous dites que c'est provocateur. Le 12 juin prochain a lieu le premier tour de l'élection législative. Moi, ce que j'espère... C'est
donc, vous allez avoir un sigle indépendant.
Je n'ai pas un sigle indépendant. Je suis socialiste. Je suis de gauche. Je suis républicaine. Je suis écologiste. Donc, c'est ça que j'affirmerai fortement dans le cadre
votre,
de cette campagne.
Votre affiche, ce sera quoi ?
Je l'ai pas encore faite. Ouais, okay, j'attends de choisir.
De toute façon, vous reviendrez pour nous en parler.
Voilà, ouais. Je vous la montrerai à ce moment-là si on a bien travaillé. Okay. Mais en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est être en capacité d'incarner déjà une forme de renouvellement dans la classe politique dont on a besoin, d'incarner aussi le visage de nos enfants, qui sont ceux du 20e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement très populaire, très vivant, très métissé, très dynamique, d'être en capacité aussi de poursuivre le mandat que m'ont confié les électeurs il y a moins d'un an. C'est cet espoir-là que j'ai envie de porter pour les citoyens de la 15e circonscription de Paris, du 20e arrondissement, et j'espère qu'ils me feront confiance et que le 12 juin prochain, je pourrai vous dire c'est formidable, je suis au second tour et je vais gagner.
En tout cas, à la mie à la rage, on a retenu que vous n'êtes pas prête à vous faire broyer par un parti qui a oublié ses repères et qui est déboussolé et qu'en tout cas vous êtes forte de vos convictions. On aurait aimé vous interroger sur la guerre en Ukraine, sur le Covid, sur tout un tas de choses. On espère que vous reviendrez, on serait vraiment ravis que vous reveniez nous en parler.
Mais avec grand
plaisir.
Et à
très bientôt sur l'antenne de Beurre FM. À très bientôt et merci.
À très bientôt, au revoir. Merci. Au revoir.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.